te, les dominés, les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les maintenir. Seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce, d'une logique de la rationalité du capital. La globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout. On ne la considère pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Moi, je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions. Et de vous retirer sur le côté, gentiment.
Monsieur,
comme ça, il n'y aura pas de violence,
en tout cas
pas de
inconvénient. J'attends les ordres.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine, c'est les Gaudigaris à Montpellier, Canassul à Toulouse et Radio Primitive sur Reims. Les Régors, une parole anarchiste communiste. On va commencer cette émission par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière à Pantin, où 6 personnes sont mortes, brûlées ou asphyxiées dans un incendie d'un petit immeuble, avec une vingtaine d'autres qui d'ailleurs étaient là, qui ont pu, elles, se sauver. Alors, je crois qu'on a Jean-Mi au téléphone.
Oui, oui, je suis là.
Voilà. Alors, tu vas peut-être un peu nous rappeler un peu ce qui s'est passé la semaine dernière, parce que ça...
Ouais, donc en fait, il y a 6 personnes qui sont décédées et une dizaine d'autres qui ont été blessées à la suite d'un incendie dans un squat, dans une maison squattée, rue Hoche, à Pantin. Ces gens-là, c'était en fait des Tunisiens, majoritairement des gens de Tataouine. Il y a 4 personnes issues de la région de Tataouine. Il y a un Libyen et un Égyptien qui sont décédés. Et ces gens, en fait, font partie des gens qui sont arrivés en France il y a quelques mois et qui ont participé à différents mouvements pour essayer d'avoir des conditions de logement et des conditions d'accueil dignes et qui se sont fait rejeter. On est un peu perturbé parce qu'on a appris ce soir que le maire de Pantin, Bertrand Ken, maire PS, et Pierre-Henri, le président de France Terre d'Asile, étaient en train de participer au FR3 local, au soir là,
oui.
Qui commence à 7h, ce qui nous permet aussi de comprendre pourquoi il y a énormément de flics. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de policiers, certainement, qui peuvent craindre un envahissement potentiel du plateau. Et puis, c'est important de comprendre c'est ce qui s'est passé à mercredi matin à Pantin. C'est dramatique, bien sûr, mais c'est pas un drame. C'est pas un hasard, quoi.
Bien sûr.
C'est pas un hasard parce que depuis 6 mois, la question des migrants tunisiens et des migrants du Maghreb qui sont partis et qui sont arrivés par l'Italie, par Lampedusa, et puis qui sont arrivés en France, elle se pose et elle n'a toujours pas été réglée. En tous les cas, elle n'a pas été réglée dans le bon sens. Elle a été réglée par des flics et par des expulsions.
Ouais. Mais je crois qu'il n'y a pas eu que les flics. Il y a la mairie de Paris qui a tout lâché fin août et début septembre.
Ouais. Alors, je t'entends pas très bien. Hein.
C'est vrai,
assez faiblement. D'accord. En plus, il y a du bordel derrière. En fait, si tu veux, depuis le 1er septembre, le 1er septembre 2011, la mairie de Paris, elle héberge plus les migrants. Auparavant, il y avait pu avoir, grâce à des occupations d'immeubles et de bâtiments publics, Bolivar, on avait fait une émission, nous, sur l'occupation du gymnase de la Fontaine au Roi, le foyer Aftam de la rue Bichat, le foyer Aftam dont le président de l'association. Hein. Comment ?
Stéphane Hessel, le fameux Stéphane Hessel.
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est le président d'honneur de cet asso qui est vraiment tout un symbole, quoi. Donc, depuis le 1er septembre, la mairie de Paris elle a arrêté de proposer des solutions d'hébergement. Par contre, elle a mis en place, par rapport aux polices municipales et par rapport aux édits qu'elle a pris, tout un tas de contrôles et de quatrillages policiers dans le 19e et dans le 20e arrondissement, donc des quartiers, des arrondissements très populaires, pour rejeter les migrants en dehors du périph', quoi. Donc, ouais. Les migrants sont descendus vers Pantin. Et ils sont pas descendus n'importe où, ils sont descendus donc dans la rue Hoche et dans le quartier, dans le coin de Pantin qu'on appelle les Quatre Chemins en fait, qui est à la confluence d'Aubervilliers, de la Courneuve et tout ça, donc c'est vachement populaire. Et en fait, ce quartier, il est profondément en train de changer. T'as des grosses opérations immobilières, de la grosse spéculation immobilière, et donc il y a plein d'immeubles vides. L'immeuble qui a brûlé, qui appartient à la mairie de Pantin depuis 3 ans.
D'accord.
Et depuis 3 ans, il était inhabité.
D'accord.
Et t'as une énorme pression immobilière, puisque dans un espèce de paradoxe et de saloperie comme peut être parfois le capital, juste à côté du squat, t'as les locaux d'Hermès, hein, la boîte Hermès.
D'accord.
Qui possède une entreprise là, un site quoi, et qui est en train de racheter pour s'agrandir. Et à côté, t'as les locaux de la BNP Paribas, hein, et notamment les locaux de BNP Paribas Security Service, ceux qui font de la protection et de la sécurisation des titres, hein, sur les marchés financiers. Voilà.
D'accord.
Donc tu vois un peu le genre.
C'est sûr que le quartier va changer.
Ah ben c'est devenu un petit paradis pour Bobo, pour ceux qui connaissent un peu Paris. On est à peu près 500 mètres
de Paris,
de l'Ourcq.
Ouais.
Donc c'est vachement agréable. Et puis maintenant, c'est devenu impossible d'habiter dans Paris. Donc les Bobos surinvestissent la Grande Couronne. Donc c'est complètement la logique du système. C'est-à-dire que ce drame, on va pas dire qu'il devait arriver, mais c'était écrit.
Oui, c'était écrit. Il y a des grandes chances que ça pouvait se passer. Ouais. Et il y a peut-être encore d'autres choses qui peuvent se passer du même ordre, parce que je suppose qu'aujourd'hui, il y a des dizaines, voire plus, d'immigrants sans papier qui errent en région parisienne actuellement.
Ouais. Donc, et on estime à 1200 les migrants qui sont concernés par... la situation, je te dis, hein, des pays, des gens qui viennent du Machrek ou du Maghreb et qui sont partis à l'issue des révoltes.
Des révoltes, ouais. Ouais.
Bon, alors il y a quand même dans cet océan de fumier, il y a quand même un peu d'espoir, quoi. C'est que ces migrants, ils s'étaient plutôt bien incorporés dans le quartier, quoi. Ici, squatter, pas avoir de thunes. Être en dèche, c'est un truc qui est vachement partagé par tout le monde, quoi. Donc, il y avait tout de suite eu un bon accueil. En plus, il y a des populations immigrées ici, donc ça facilite les échanges. Et du coup, tout le monde a été vraiment, vraiment super choqué, quoi, par ce qui se passait. Et là, actuellement, il y a environ 200-250 personnes qui se réunissent en hommage et puis qui sont en colère aussi. Qui sont en colère parce que ils voient bien que la situation elle découle de ce qui se passe dans le quartier, puis ils sont en colère parce que ce soir les solutions d'urgence qui ont été proposées par la mairie de Pantin elles prennent fin, quoi.
Ouais.
Ce qu'a proposé la mairie de Pantin, c'est un hébergement dans les chambres d'un stade de foot.
Ah d'accord.
Et 30 euros par jour. Et voilà, quoi, ce soir c'est terminé, ça veut dire que demain matin à 7h30, tout le monde dehors, quoi. 3-4 fringues, etc., avec en plus des comportements qui sont complètement dégueulasses, quoi. À savoir, par exemple, Monsieur Briand, hein, adjoint au maire Europe Écologie, qui se permet de dire aux gens vous avez qu'à les prendre chez vous, hein. Les migrants, c'est vrai, vous devez avoir des grands appartements, bien sûr, vous pouvez les prendre. Etc. Pareil, enfin voilà quoi, Kern, et surtout ce qui a vraiment énervé les gens, c'est que peut-être que t'as vu ces images-là, toi, c'est que mercredi matin, il y a eu un vrai défilé des
politicards.
Des politicards, ouais.
Ouais, il y a même Guénon qui est venu. Et là, je crois qu'aussi, ça sera important que tu rappelles comment ça s'est passé, en particulier... les pompiers, tout ce qui se passe.
Ouais, c'est
ça. Bon, si les mecs sont morts, à mon avis, il y a eu quand même des circonstances, entre guillemets, circonstances aggravantes qui a fait que rien n'a pu être fait pour les sauver, quoi.
Ben, si tu veux, donc, il y a deux étages, hein, sur l'immeuble. L'immeuble est muré jusqu'au deuxième étage. Les migrants avaient ouvert un passage de l'autre côté, mais tout le reste, toutes les fenêtres étaient murées, quoi. Donc, vers le matin, vers 5h, il y a eu les premiers gens qui sont sortis bosser et qui ont vu les flammes et qui ont appelé les pompiers. Et puis, dans les quartiers populaires, quand t'appelles les pompiers, t'as d'abord les flics, quoi.
Ouais.
Donc, il y a d'abord les flics qui sont venus, qui ont commencé à sécuriser le quartier, parce que, évidemment, c'est important. Et ensuite, t'as les pompiers qui sont venus. Alors, d'après les témoignages qu'on a, on parle de 40 à 45 minutes, ce qui est assez étonnant, puisqu'il y a une caserne de pompiers juste au niveau de la porte de la Villette, à Paris. Donc, on va dire, allez, 800 mètres, quoi.
Ouais.
Donc, voilà. Et puis, quand les pompiers sont arrivés, les migrants nous disent qu'ils les ont tout de suite foutus sur le côté, alors qu'il y a des migrants qui ont essayé d'expliquer un peu quelle était la disposition des lieux et tout ça. Où on pouvait passer, vu qu'ils connaissaient les lieux, tu vois. Et il y a eu des grands discours de la part des pompiers en disant « Oui, laissez les professionnels faire, on connaît tout votre métier, etc. etc. » Alors oui, bon, les sapeurs-pompiers de Paris, c'est des militaires. Hein.
Il faut leur folie.
C'est des salopards qui bossent avec les flics, ça, il n'y a aucun problème. C'est des gens qui, avant de sauver les gens, demandent s'ils ont leur papier. C'est pas les sapeurs-pompiers volontaires, hein. C'est vraiment des militaires, quoi. Et donc, tu imagines un peu l'horreur de la situation, puisqu'il y avait des gens qui étaient en train de mourir, quoi. Donc, ça veut dire des cris, des hurlements, des odeurs effroyables, quoi. Donc, vraiment quelque chose qui a bien marqué les gens, quoi. Avec, évidemment, vu la présence des flics, des blessés qui ont préféré se barrer pour pas se faire attraper.
Ouais.
Et puis, dès le matin, dès 9h du matin, le défilé des politicards. Alors, le premier, ça a été Guéant, hein, qui est venu dire que c'était un drame de l'immigration illégale, avec des... Comment il a parlé? Il a parlé des filières criminelles,
des
candidats, etc. Enfin, discours à la con habituel. On peut juste lui rappeler que ces réseaux criminels de passeurs, ils prospèrent sur le fait que la liberté de circulation des pauvres, elle n'est pas autorisée, quoi. Hein, c'est clair, les mecs, ils profitent de la prohibition, quoi. Et puis après, donc, il y a eu Bartolone qui est venu, effectivement, voir s'il pouvait pas gratter quelques voix pour les prochaines élections, et puis le maire, quoi. Et donc ça a passablement énervé les gens, et ce qui devait arriver arriva, et vers 17h, il y a eu des incidents avec les flics, et il y a 4 personnes qui ont été embarquées. À ma connaissance, elles sont toutes ressorties, et je suis sûr que pour 3 personnes, il n'y a pas de charges qui ont été retenues contre elles, mais peut-être que pour 2 autres, ça reste à vérifier, quoi. Enfin voilà, tu vois le climat qu'il y a là, c'est blindé de flics, c'est vraiment terrible, quoi. Bon, on peut quand même positiver et dire qu'il y a une solidarité qui est en train de se créer là. Il y a un commerçant qui a mis à disposition l'adresse de son magasin et son local pour recueillir de la boue, des médicaments et des vêtements, quoi, pour dépanner les gens dans l'urgence. Il veut pas d'argent, justement, pour pas qu'il y ait de problème. Alors peut-être que ça va créer un moment de solidarité, au moins dans la rue, et puis peut-être sur Pantin. On va bien voir, on va essayer, mais en tous les cas, les gens sont en colère, et au moins c'est toujours ça. Enfin voilà, quoi, peut-être que de cette colère pourra naître quelque chose. Il faut qu'il naisse quelque chose, sinon c'est...
Oui, parce que comme tu dis, s'ils sont 1200 à errer comme ça en région parisienne...
Ouais.
Il risque d'y avoir d'autres problèmes très graves, quoi.
C'est clair. Mais tu sais, en plus, il y a un hasard du calendrier, comme on dit. C'est que cette semaine, il y avait le procès de l'incendie de l'hôtel, hein, du boulevard Auriol.
Ouais, tout à
fait. Alors, pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est en 2005, il y a eu un incendie au boulevard Auriol dans un hôtel dégueulasse, marchands de sommeil, etc., qui appartenaient à l'État,
oui.
Mais depuis 1991, mais dont l'État avait délégué la gestion à une association dont je cherche le nom pour pas dire de bêtises, mais qui est en fait une filiale d'Emmaüs. Oui. Et voilà, FREA, France Euro Habitat, association affiliée Emmaüs qui gérait les meubles, et l'entreprise Paris Banlieue Construction qui était censée le rénover. Et donc ces gens-là géraient les meubles depuis 95. Alors les chambres d'hôtel, elles étaient payées par la collectivité, évidemment, puisque c'est des gens qui étaient dans les hôtels faute de pouvoir avoir accès à des logements alors qu'ils en avaient totalement le droit, quoi. Et il y a 14 personnes qui sont mortes, hein, dont 12 enfants. Et il y avait eu un premier procès au mois de mars, hein, qui avait été fait de manière dégueulasse, dans le sens où on avait prévu que 2 jours. Les familles des victimes n'avaient pas le droit à la parole, il n'y avait pas assez de place, hein, tu vois, vraiment, ouais. N'importe quoi. Bon, là, ça s'est terminé vendredi, c'est toujours pas terrible. Il y a des milliers d'euros qui sont réclamés en dédommagement, mais celui, l'État n'a pas du tout été cité, quoi. Donc, il n'y a pas de mise en accusation de l'État et de trucs. Voilà un exemple de justice, de gens qui sont, qui subissent les contrôles, qui subissent la précarité, qui, voilà comment on traite une partie de la population en France, quoi. C'est pas, ces gens-là qui ont vécu des drames absolus, à la fois pour venir, qui vivent encore des drames absolus, la réponse qu'ils ont, c'est le mépris, voire les flics, quoi. Voilà. Ouais.
Et ils peuvent se retrouver en centre de rétention à tout moment.
Exactement. Mais en plus, c'est faux parce que on parle de gens qui sont en situation régulière. C'est beaucoup plus complexe que ça.
Bien sûr.
Il y a des gens qui ont encore des visas Schengen qui sont valables. Hein.
Tout à fait.
C'est pas des gens qui sont expulsables, sont pas expulsables ces gens-là. C'est des conneries de parler de drame de l'immigration. Le drame de l'immigration, c'est tous les jours en Méditerranée. Le drame de l'immigration, c'est à cause de Frontex, hein, qui bloque les bateaux. Tous les jours en Méditerranée, tous les jours à Gibraltar, il y a des gens qui se noient pour venir en Europe. Alors si les drames de l'immigration, ça les intéresse, ils n'ont qu'à supprimer Frontex déjà. Au moins, ils pourront faire un petit peu quelque chose. Voilà.
Jean-Michel, salut.
Salut, Nathan.
Je voulais juste intervenir parce que tu parlais là de l'incendie de l'hôtel du boulevard,
ouais.
Auriol.
Ouais.
Et tu parlais des marchands de sommeil, ce sur quoi je ne m'aventurerai pas parce que j'en sais trop rien. C'est possible, hein,
mais
il m'a semblé que là, sur le procès, en tout cas, on était bien contents de trouver 2-3 petits fusibles à faire sauter, d'ailleurs moyennement, parce que finalement, ils ont été condamnés à... des amendes, bon, d'accord. Mais par contre, quand même, ce que je trouve assez incroyable, c'est qu'il y a un incendie, comme tu dis, il y a 14 personnes qui meurent, et il y a une enquête qui trouve aucun coupable. Moi, ça m'étonne, tu vois, déjà, il me semble que ça arrive jamais, ça. Ça arrive que, justement, quand ce sont des personnes dont tout le monde se fout.
En plus, quoi, t'as la moindre petite affaire de merde, on te sort de l'ADN et tout ça. En plus,
voilà, c'est ça.
Tu fais bien de préciser ça. Alors, j'ai dit une connerie, on parle de marchands de sommeil, mais bon, les rénovateurs là, ouais, ok, mais l'immeuble appartenait à l'État. Hein.
Oui.
D'accord.
Et en plus, oui, et justement, il se trouve quand même que toutes ces personnes qui vivaient dans cet hôtel-là avaient une promesse de relogement depuis des années, de la part de la préfecture. Bon, donc, moi, ça me semble assez clair. On n'est évidemment pas dans un drame de l'immigration, on est dans le drame de la pauvreté. Les personnes qui sont en attente de relogement à Paris pendant des années et des années, il y en a plein partout. Et puis moi, je crois que s'il y a des passeurs, on en a déjà parlé, s'il y a des passeurs à certains endroits et des marchands de sommeil à d'autres, c'est bien parce que toutes les conditions sont créées pour que les gens ne puissent pas ou circuler ou vivre quelque part, décemment, correctement. Et donc, ça favorise effectivement une espèce de mafia souterraine, mais de mafia à 10 balles en même temps, quoi, parce que c'est gagner de l'argent sur des gens qui en ont très peu, la plupart du temps. Et voilà, c'est des systèmes d'émerdes pour faire face à des situations qui sont créées de toutes pièces quand même par l'État.
Ouais, par
parce que quand ça fait des années qu'on promet un relogement à des gens et que ce relogement n'arrive jamais, précisément, c'est pas les représentants de l'État qui sont à la barre pour répondre de ce qui s'est passé, quoi.
Mais t'as raison d'insister sur l'incendie du boulevard Auriol, parce que ça fait quand même 6 ans, et cette année-là, il y a eu plusieurs incendies dans plusieurs hôtels.
Oui.
Hein, on s'en rappelle
oui,
un
oui,
petit
tout
peu.
À fait.
Et il y a le directeur du laboratoire des pompiers de Paris qui est venu et qui a expliqué qu'ils avaient réussi à trouver les causes de l'incendie. En fait, c'est un incendie criminel. Mmh. Le feu a été foutu aux poussettes qui étaient stationnées en bas. Mmh. Hein. Il a remarqué que le mode opératoire avait pu être répété au cours des deux années précédentes. Donc, en fait, on a affaire soit... Il y avait une piste là, vraiment, qui était prenable, quoi. Et là, pour le coup, la réponse de la police et l'État, c'est rien à foutre, quoi.
Mmh.
Rien à
oui,
foutre.
C'est ça,
le
c'est
moindre
ça.
Petit ado qui va foutre le feu à une boîte aux lettres... quand on va pouvoir exploiter ce drame de l'insécurité, comme on dit, ou de l'incivilité, on va y aller à fond les ballons, quoi. Mais là, pour des pauvres noirs d'Afrique subsaharienne, rien à cirer, quoi.
Ouais.
Et encore, heureusement qu'il y a eu 2-3 avocats qui ont ouvert leur gueule, parce que sinon ça aurait été torché en 2 jours, tu vois, avec non-lieu, et puis voilà, quoi. Mm. Par contre, du coup, là, il y en a qui ont bien les boules, là, c'est les associations gestionnaires de ce genre de trucs, quoi. Tu vois, là, eh ben, il n'y a pas grand monde, hein, pour le coup.
Mmh.
Là, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des badges, des machins, des drapeaux et tout ça, quoi.
Oui, tu parles de ce qui se passe aujourd'hui, là.
Ouais,
parce qu'il y a eu.
Mais même au procès, hein. Même au procès. Il
n'y avait
pas
ouais.
Il y avait des profils très, très bas. Hein.
Ouais.
Voilà.
J'ai vu un communiqué du DAL concernant ce qui s'est passé à Pantin, là. Je ne sais pas si tu es au courant, je ne sais pas si tu les vois
ouais,
sur place.
Oui, il y a 2-3 personnes du DAL, ouais.
D'accord, ok.
Ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise.
Ouais.
Oui, mais que dit le communiqué?
Oh, il n'est pas plus ce qui a été dit dans la presse. Hein.
Ouais.
Dire bon, il n'y a pas de truc spécifique. Hein. Si ce n'est que un autre procès va s'ouvrir en appel cette fois-ci.
Ouais.
C'est du centre de rétention de Vincennes, ceux qui ont.
Pas de ça, moi.
Ah oui, c'est-à-dire qu'on est dans une période où il y a des procès partout. Alors c'est en appel, c'est le fameux centre de rétention de Vincennes qui avait brûlé
ouais.
le 21 juin 2008. Il y a eu un sans-papier qui avait été enfermé au centre de rétention et qui est mort, qui est faute de soins. Les gens qui étaient sur place s'étaient révoltés et avaient foutu le feu. Et ça avait été très joli de voir qu'un centre de rétention puisse cramer. Et pendant quand même quelques mois, il y avait eu moins de places de rétention en France. C'était au moins ça qui était acquis. N'empêche que là, il y a eu des personnes qui ont été arrêtées. Il y en a 10 qui ont été arrêtées et ils sont passés en procès une première fois. Elles en ont pris plein la gueule puisqu'elles ont pris entre 8 mois et 3 ans de prison. Et là, le procès a lieu en appel, là, à Paris, donc, à partir du 6 octobre. Il va durer un mois, mais il a lieu que 2 après-midi par semaine, le jeudi et le vendredi. C'est assez incroyable comme système. C'est important, ce procès, parce que je pense qu'il s'il y a des gens de Paris qui sont disponibles, faut qu'ils y aillent, parce que les mecs en question, maintenant, sont libres, mais ils peuvent replonger. Ça, c'est clair, ils peuvent être arrêtés de nouveau. Donc là, je crois que... Puis en plus, ça serait bien quand même qu'il y ait une présence militante assez
ouais.
importante.
Il faut absolument relier tous ces éléments pour comprendre qu'est-ce que c'est que la politique migratoire, comme on dit, à quoi elle sert.
Tout à fait.
Bah, tu parlais de procès, puisqu'on parle que de ça, en parlant des procès. Demain, le 4, il y a le procès en appel de Villiers-le-Bel qui recommence,
ouais.
où il y a des gens qui ont été condamnés de 18 mois à 12 ans de prison pour tentative d'homicide volontaire sur agents de la force publique. En effet, il y avait des policiers qui s'étaient fait tirer dessus, et ces gens-là ont été condamnés sous la foi de témoignages sous X rémunérés,
ouais.
qui est une première en France, hein, en assise. C'est une première en France, ils savent très bien le faire, ils ont très bien le faire sous l'occupation, bien sûr. Mais voilà quoi, donc ça redémarre. Bon, c'est un peu loin, c'est à Pontoise, mais c'est en assise. Et là, c'est de la vraie vengeance d'État, quoi. Là, pour le coup, il y a...
Pour le coup, il y a des gens dans le box des accusés, quoi. C'est pas comme
le
procès dont on parlait juste avant,
ouais.
où on a trouvé personne. Ouais.
Là
on trouve, là.
Ils arrivent à les trouver, les mecs qui ont tiré, là.
Ouais.
Là, ils mettent les moyens. Forcément, hein, c'est des flics, donc tu comprends, c'est pas pareil, quoi. La vie, ça n'a pas la même valeur, selon que tu sois habillé en bleu ou que tu sois habillé en noir.
Alors justement, on parlait des flics là. Est-ce que t'as des petites ratettes ? Est-ce que quelle réaction tu as par rapport à nos chefs entre guillemets qui ont des problèmes avec la justice actuellement, en particulier un certain
dans la région lyonnaise.
Dans la région lyonnaise.
Ah bah écoute, moi je suis pour la présomption d'innocence. Hein. Tant que un flic a pas été. Non, mais bon, de toute façon, on a toujours dit que. La seule différence entre les voyous et les flics, c'est qu'il y en a qui avaient une plaque, quoi, et d'autres qui n'en avaient pas.
Tout à fait.
Ouais, là, il ne s'agit pas de voyous, c'est quand même du grand banditisme, quoi. C'est quand même des gros calibres,
si on peut dire. C'est gros calibre.
Puisque là, c'était pas des affaires de grammes, ça marchait au kilo, quoi, en fait, au kilo, voire
oui,
plus.
Oui, puis
quoi.
C'est les vacances à Marrakech. Hein,
ouais.
Non, mais à mon avis, il n'a pas dû envoyer la troisième mensualité, tu vois, quelque chose comme ça. Il a dû faire une bêtise dans son arrosage, quoi. Parce que on se rappelle aussi que, par exemple, quand on à Lyon, à Grenoble et à tout ça, où on parle de mafia, il y a des gens qui, quand ils braquent des casinos, ils se prennent une balle dans la tête, quoi.
Ouais.
Au quartier, les derniers incidents qu'il y avait eu à Grenoble, voilà, quoi. Là, on aimerait bien effectivement qu'il y ait des déclarations fortes, mais bon. Simplement. Non, mais de toute façon, on dit ça, mais on n'est pas naïf. Hein.
Oui, c'est clair.
C'est très bien comment. Après, bon, peut-être des fois, il y en a un qui tombe pour l'exemple, mais pour un qui tombe, combien il y en a de.
Ouais.
Voilà. Enfin, bon, ben, moi, je vous m'excuse, je vais y retourner.
Oui.
Et puis, ben, s'il y a des gens sur Paris qui ont envie de s'investir là-dedans, rendez-vous au procès de l'incendie de Vincennes. Et puis, il y a donc rue Hoche, le petit magasin au 41 rue Hoche, qui peut récolter tout ce que les gens ont envie de filer, s'ils ont envie. 41 rue Hoche, le métro, c'est évidemment Hoche, c'est sur la ligne 5. Voilà.
Écoute, on t'en remercie. Et puis...
Ouais, merci.
Ouais, à bientôt.
À bientôt.
Salut.
Salut. Salut. Thank you. comme on parlait d'immigration, là, je crois que Camille, t'as une nouvelle de notre région.
Ah oui, oui, bah, là, vous savez que il y a toujours la politique du chiffre qui fonctionne. On a entendu parler récemment de renvoi de familles vers le Kosovo, d'une grosse famille, le tout dans un avion spécial. Eh bien, la semaine dernière, lundi dernier, c'est passé la même chose dans l'Aube. Il y a une famille kosovare, le mari, la femme et les deux enfants qui ont 18 et... je sais plus, 18 et 2 ans et demi, 18 mois et 10, 2 ans et demi, qui ont été reconduits en toute discrétion vers leur pays. Alors, ces personnes étaient arrivées à Bar-sur-Aube en 2009. Ils avaient fait une demande d'asile. Maintenant, il faut savoir que le Kosovo est considéré comme un pays sûr. Et donc, ils sont passés en procédure d'urgence, et bon, on leur a dit que il fallait qu'ils retournent chez eux. Ça a traîné un petit peu quand même. Et au mois d'août, ils sont présentés à la préfecture de l'eau pour essayer de régulariser leur situation. Ils sont enfin arrêtés sur le champ par les flics. La préfecture a appelé les flics. Ils ont été conduits au CRA de Metz. Ils sont restés quelques jours. Comme ils étaient hébergés au CADA de Bar-sur-Aube, ils ont été libérés. Mais bon, l'affaire n'était pas réglée pour autant. Et donc, lundi, ils ont été libérés, mais ils n'avaient plus le droit d'être au CADA. Donc, ils étaient installés dans une autre association qui se trouve juste à côté du CADA. Et en toute discrétion, les flics sont venus les chercher lundi dernier et les ont ramenés au Kosovo.
D'accord. Oui, bon. Et je crois qu'au niveau social, tu as du nouveau.
Ah c'est ça, il y en a, et sur le social, il y en a toujours. Oui, mais là, je voulais vous en parler parce que ça concerne la mairie de Reims.
La mairie de Reims.
Voilà. Alors, la semaine dernière, la presque majorité du service communication de la mairie de Reims était en grève. Ils étaient en grève. Pourquoi ? Pour des faits, entre autres, de harcèlement. Il parlait de mépris, de harcèlement moral, de dysfonctionnement dans l'organisation de la part. Donc, ce qu'ils demandaient, c'était en fait le départ de leur directrice de service. Alors, il faut savoir qu'apparemment, c'est un truc qui traîne depuis, ça fait 3 ans déjà que ça traîne, et que rien ou presque rien n'avait été fait. La maire les avait rencontrés une fois, elle avait fait appel à un psychologue ou je sais pas trop quoi, puis ça s'en était resté là. Et voilà quoi. Et donc, il faut savoir que c'est un service où il y a aucun syndiqué. Donc ils sont un peu plus d'une vingtaine. Il y avait 95% qui étaient en grève, c'est 95%, c'est 20 personnes. Donc ils étaient, pour ainsi dire, l'ensemble du service était en grève. Et puis la maire a fait savoir, leur a fait savoir au début qu'elle allait envoyer quelqu'un, un espèce de médiateur, pour essayer de voir comment ça pouvait se régler, etc. En pensant qu'ils allaient reprendre le travail, mais ces personnes n'ont pas du tout repris le travail. Il a fallu que vendredi, c'est jeudi ou vendredi, il y ait une manif où il y avait plusieurs centaines, à l'appel des syndicats, plusieurs centaines d'employés de la ville de Reims et de Reims Métropole qui viennent manifester devant la mairie pour que une solution soit trouvée. Alors, la directrice n'est pas virée. Elle n'a plus le droit pour l'instant d'exercer dans son service. Madame la maire l'a pris dans son cabinet. Donc c'est la directrice adjointe qui est chargée de régler pour l'instant. Alors j'aime bien c'est pour l'instant parce que c'est le temps qui est, je ne sais plus, il y a une espèce de truc interne qui va se passer. Donc pour l'instant on laisse couver.
Une enquête administrative.
Oui, c'est même pas ça parce que à mon avis il y a pas d'enquête administrative. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Parce que cette dame. C'est Adeline, c'est Madame le maire de Reims qui allait la chercher elle-même. Elle était au cabinet de Martine Aubry. Donc c'est une très bonne. C'est une bonne copine. Et donc on apprenait par la même occasion. Donc la directrice, elle est retirée. Donc elle ne peut plus aller dans son service, mais elle est gardée. Madame la maire lui a confié une mission. Donc dans son cabinet. Et on apprenait par la même occasion qu'il y a une personne du cabinet du maire qui a été nommée il y a pas très longtemps directrice du service culturel et qu'apparemment on aurait un peu les mêmes méthodes. Voilà. Hein, donc il a fallu. Bon, on sait qu'il se passe pas mal de choses dans les au sein du personnel, dans les services administratifs de la ville et de Reims Métropole. Bon, on en découvre quoi.
D'accord. Alors, j'allais plus loin, moi. J'allais à Mayotte. Je sais pas si vous êtes au courant. Il y a une grève générale à Mayotte depuis une semaine.
Bah oui.
Sachi même.
Beaucoup.
C'est vraiment des émeutes de la faim, puisque la revendication, c'est les ailes de poulet moins chères. Il faut dire que les ailes de poulet, là-bas, c'est la base de la bouffe. Et ils demandent donc à ce que ça soit accessible à tous. Alors, il y a eu dans la rue 3000 personnes. Il faut dire que Mayotte, c'est un nouveau département français depuis peu de temps. Hein. C'est une situation d'ailleurs coloniale incroyable, puisque... Les îles Comores ont leur indépendance, sauf Mayotte, à cause d'une magouille française, où ils ont voulu rester sur place pour des raisons de stratégie, entre autres stratégie militaire, pour être présents dans le coin. Et ils ont réussi à faire en sorte qu'il y ait une partie des îles Comores qui échappe
ils ont embobiné des Mahorais. Il y a eu un référendum où les Mahorais de Mayotte demandaient à rester dans la République française.
C'est ça. Bon alors, pour la petite histoire, au niveau de l'ONU, la France a été condamnée, mais ça, on s'en fout un peu. N'empêche que on est dans une situation coloniale. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que il y a eu quand même 3000 personnes qui ont bougé, et là, ça a été l'armada. Les tanks sont arrivés. Il y a eu des blindés qui sont pointés, qui venaient souvent de l'île de la Réunion d'ailleurs, et il y a eu déjà pas mal de blessés. Il y a eu des affrontements, la situation est toujours en grève générale, c'est une grève générale illimitée qui a été décrétée donc il y a une semaine. Alors on n'en sait pas plus, la dernière nouvelle que j'ai eue, moi, c'était de ce week-end. Donc aujourd'hui, je n'ai pas eu de nouvelles par rapport à ce qui s'est passé là-bas.
C'est très compliqué d'en avoir, j'ai fait des recherches aussi pendant tout le week-end là-dessus. Mis à part une paire d'articles qu'on arrive à trouver avec justement, il y a des jolies photos des blindés qui occupent... là, on se croirait revenu, parce que c'est des situations qu'on avait connues, par exemple, au moment de la lutte de Chaux et de Vireux, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ce genre de situation. Hein. Et ils en profitent complètement, là.
Complètement, oui. Alors, ce qui m'a fait sourire, c'est que cette grève générale illimitée a été décrétée par 3 syndicats. Et alors, j'ai cherché quels étaient ces 3 syndicats. J'étais vraiment écroulé de voir que c'était FO, la CFDT et la CGT. Alors que bon, en France, dire quand ils auront le toupet de nous dire qu'on fait une grève de plus de 24 heures, eh bien ça sera vraiment formidable. Là-bas, mais je crois que là, parce que tout simplement la situation sociale est explosive et que là, effectivement, il y a des gros problèmes pour la population pour se nourrir tout simplement.
Ah ouais, mais de toute façon, c'est le problème dans toutes les îles, dans tous les départements français outre-marins. Les syndicats, même s'ils portent la même étiquette qu'en France, en gros, ils n'ont pas les mêmes positions et c'est beaucoup sur des positions beaucoup plus dures que vu la situation coloniale qu'ils vivent. Quoi.
D'accord, on va peut-être faire une pause musique.
Ouais, ok.
Sécheresse, fiancée de l'eau, à marier son sang à celui du ruisseau. Prince orange, ton drap blanc, prince orange, ton drap blanc, prince orange, ton drap blanc. Prince orange, ton drap blanc ne sera jamais le drapeau rougissant de sa virginité. Regarde son honneur, regarde son honneur, regarde son honneur. Regarde son honneur, sortir par la mort, un triste voleur, l'absence dans son corps. Tu peux creuser la terre, tu peux creuser la terre, tu peux creuser la terre. Creuser la terre avec toutes tes remords, creuser jusqu'en fer, creuser, creuser encore. Non, tu n'auras rien faire, non, tu n'auras rien faire, non, tu n'auras rien faire. C'est jeter au ciel, tu commences à comprendre que tout n'est pas à vendre, que tout n'est pas à vendre, que tout n'est pas à vendre.
Une nouvelle à nous donner?
L'INSEE vient de publier les statistiques du chômage pour le mois d'août. Et puis, quand tu regardes les chiffres, les statistiques, tu te dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Le chômage dans la Marne a baissé de 11,4%. On regarde dans l'Aube, on a des chiffres à peu près identiques. Si on regarde les autres départements de la région,
les Ardennes.
Les Ardennes et la Haute-Marne, c'est pas du tout les mêmes chiffres. Alors, déjà, les 11,4%, c'est sur les chômeurs de catégorie A, c'est-à-dire ceux qui n'ont absolument pas travaillé au cours du dernier mois. Alors, si on remet ces chiffres, si on met toutes catégories confondues, la baisse, elle était que de 0,6% au mois d'août. Alors, vous allez dire, pourquoi il y a une telle baisse du chômage au mois d'août? C'était les vendanges, hein.
Bien sûr.
Et donc, ces vendanges ont employé beaucoup de personnes qui étaient inscrites au chômage. Donc, elles ne disparaissent des statistiques de la catégorie A. Elles passent dans une autre catégorie, donc c'est pour ça qu'il y a une grosse différence entre la catégorie A et l'ensemble des catégories, hein. Et puis si on regarde sur l'ensemble de l'année, on a une augmentation du nombre de, sur un an, on a une augmentation du nombre de chômeurs et non pas une diminution. Voilà.
D'accord. Est-ce que alors il y a eu une nouvelle qu'il faudrait piocher? Puisque le mouvement des indignés, dont on reparlera, puisqu'ils arrivent normalement le 15 octobre à Bruxelles, je crois. Hein. Pour l'instant, je sais pas, ils sont encore à Paris pour certains Espagnols, tu ne sais pas. Donc on en reparlera, mais il semblerait aussi qu'à Wall Street, on avait parlé d'une occupation possible de Wall Street. Eh bien, elle a lieu. Elle est à son 10e jour. Il y a des centaines de personnes, des milliers de personnes qui essayent d'occuper l'espace autour de Wall Street à New York. Il y a eu des arrestations jusqu'à 700, on parle. Il y a aussi un mouvement qui prend aussi de l'ampleur à Chicago. Et généralement, les informations ont du mal à circuler au niveau des mouvements sociaux aux États-Unis, alors qu'il se passe beaucoup de choses aux États-Unis. Bon, malheureusement, on a peu d'informations. Est-ce que vous en avez plus autour de moi ?
Ben, c'est pareil. Je me suis un peu penché sur la question, mais je n'avais pas trouvé plus de choses que toi. J'ai vu quelques reportages à la télé ce week-end.
Ouais, j'ai vu un reportage aussi. Donc, ça passe par les réseaux sociaux d'ailleurs.
Oui, oui. Ouais. Et donc, on sait qu'il y a eu 700 arrestations, non pas sur le fait d'occuper Wall Street.
Oui.
C'est simplement parce qu'il y a il y avait une manif où il y avait là beaucoup plus de personnes et les 700 arrestations sont liées au fait qu'ils occupaient la voie publique, alors qu'ils n'avaient pas le droit. Aux États-Unis, c'est interdit d'occuper la voie publique.
Ouais. Alors moi, j'ai eu un communiqué là que j'ai publié sur un truc, et paraît-il que la revendication centrale, ça serait la fin du budget militaire et imposer les riches, histoire de réduire les fantastiques inégalités qui se développent à vue d'œil en Amérique comme ailleurs. Donc c'est pas mal quand même déjà. Hein. Bon, j'espère que ça va prendre de l'ampleur et qu'on en saura un peu plus prochainement. Ok. Bon, alors maintenant, on va parler un peu des... Des délinquants, et oui, alors ils nous...
J'ai peut-être encore un petit truc de social,
vas-y.
Ça se passe à Revin, c'est une situation dans laquelle se trouve un salarié licencié d'une entreprise qui s'appelait Oxam, qui fabriquait entre autres des baignoires, donc qui était relié au groupe Ideal Standard. Les 45 salariés de l'entreprise se sont fait licencier au mois de novembre 2010, si je me trompe. Et donc, parmi ces salariés, il y avait des salariés, ce qu'on appelle les salariés protégés, dont un qui siégeait au comité d'entreprise. Donc il a été licencié comme tout le monde. Il a fait une protestation auprès du ministre en tant que salarié protégé, et donc il a reçu une réponse au mois de juillet ou août comme quoi il n'était pas licencié en tant que salarié, sauf que l'entreprise n'existe plus. La personne avait donc ils avaient le droit au CTP, c'est ce fameux contrat qui a été mis en place dans les Ardennes de maintenant qui est tendu, donc où les gens sont payés pendant à peu près un an après leur licenciement pour suivre une formation, pour être reclassé, etc. Donc là, pour l'instant, le problème, c'est qu'il ne sait pas vers qui se retourner pour... quel est l'employeur ? Est-ce que c'est l'ancien patron d'avant, on ne sait pas. Donc, société liquidée. Deuxième chose, donc par le CTP, ils reçoivent aux environs de 1000 euros par mois. Donc, il a posé la question en disant, voilà, de par la décision du ministère, je suis considéré comme étant toujours salarié de l'entreprise, mais j'ai plus d'entreprise. Donc on lui a dit, de toute façon, vous continuez votre CTP, vous allez continuer à être payé, mais au mois de décembre, on va vous réclamer 10 000 euros. Voilà.
D'accord. On va passer maintenant un peu aux mineurs et délinquants. Là, encore, il y a une nouvelle expérimentation qui va sortir. Vous me direz, bon, c'est encore une nouvelle. Il y a une mission de réflexion donc sur le traitement de la délinquance des mineurs. Qui, fin juillet, le pouvoir a confié cette mission à un député du nouveau centre du Gard, un certain Yvan Lachaud qui a déjà fait des rapports, mais là le rapport qu'on lui a proposé est beaucoup plus précis puisque la mission devrait aboutir à des expérimentations. Alors vous allez me dire, ils vont expérimenter quoi avec les délinquants ? Mais il s'agit de dégager les voies, et là je cite, et les moyens afin de créer des établissements de placement provisoire, d'observatoire et d'orientation, un centre de tri donc de mineurs, ainsi que la mise en place de brigades de police spécialisées dans la prise en charge des mineurs délinquants. Voilà, donc on va voir de nouvelles structures.
Bah, ça promet.
Ah, des nouvelles structures qui vont
apparaître.
Parce
que la dernière fois qu'il y a eu une expérimentation sur la délinquance, c'était le projet de loi sur la délinquance, justement, contre lequel on s'était quand même beaucoup mobilisé.
En 2007, ouais.
Il s'agissait de mise en place de fichiers, de mise en place de la vidéosurveillance, de la possibilité pour la police d'intervenir dans les établissements scolaires. Et j'en passe, parce que j'en oublie. Moi, à mon avis, l'air de rien, c'était pas inscrit dans le projet de loi contre la délinquance, mais bas élèves en fait partie, hein,
ouais.
Puisqu'il s'agissait pour l'État de faire le lien entre les conditions sociales et la possibilité de devenir délinquant. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas disparu, évidemment, même si ça a été fort combattu et que certains aspects ont dû être retirés de la mise en place de certains projets très divers. Ça n'a pas disparu de l'état d'esprit. Hein, et, il n'en demeure pas moins que les classes pauvres sont des classes dangereuses et qu'il s'agit absolument de les contrôler, de les cerner avant qu'ils aient pu bouger le petit doigt.
Elle n'empêche que par rapport au recul qu'il y a eu sur bas élèves, il faut le dire et le redire que c'est grâce aux luttes.
Oui,
grâce à des gens qui sont mobilisés et qui continuent à se mobiliser aujourd'hui, puisque il y a encore eu à la rentrée des menaces et des menaces qui ont été de la part de l'administration pour éliminer un certain nombre de directeurs et directrices d'écoles qui refusaient.
Tout à fait, oui. Il y a eu à Rodez la semaine dernière, convocation d'une institutrice qui a refusé d'utiliser.
Une directrice. Elle occupait la fonction de directrice.
Oui, qui occupait la fonction de direction. Une clé.
OTB, je crois.
Voilà, c'est ça. Alors,
elle a refusé de renseigner le fichier.
Bah, elle a refusé de recevoir cette fameuse clé. Alors, tu sais ce que c'est cette clé ou... On peut décrire un peu parce que moi.
Alors, on en a déjà parlé ici. Alors, c'est une clé où il y a un scandale d'ailleurs. Puisque cette clé a pour. Le créateur de cette clé, c'est une entreprise américaine qui s'est fait piquer ses fichiers il y a peu de temps. Donc effectivement, l'éducation nationale en France est comment dire concernée par ce vol de détournement de fichiers. Alors c'est que OTB, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, elle a pour fonction de donner un mot de passe à chaque fois que tu fais quelque chose.
Voilà, c'est ça.
C'est-à-dire que paraît-il que c'est sécurisé au maximum. C'est toujours sécurisé au maximum, etc. À chaque fois que tu t'en sers, pof, le mot de passe change et tu as que quelques minutes pour t'en servir. Et après, tu recommences, le mot de passe change. En fait, bon, tout peut être détourné. La preuve, c'est que l'entreprise en question s'est fait piquer ses logiciels, etc. Bon, on en causera
certainement. Donc, cette directrice qui a refusé d'utiliser, de recevoir, d'avoir en sa possession cette clé a été convoquée par l'inspection académique à Rodez. Et donc, elle a été soutenue, hein, puisqu'il y avait quelques dizaines de personnes qui étaient là, parents ou instits, pour la soutenir.
Et des gens du collectif national de résistance à bas élèves.
Voilà,
notamment.
Et donc, elle est restée sur sa position, elle est repartie sans la clé, point final. Donc, on ne sait pas ce que ça va devenir, cette histoire-là, mais toujours est-il que ça s'est produit encore donc il y a une semaine.
Ouais. C'était il y a un mois, ça s'est passé aussi à Blois. Une cinquantaine de personnes avaient manifesté devant l'inspection académique pour refuser la mutation d'office d'un directeur d'école primaire qui refusait justement de renseigner bas élèves. Il est resté sur ses positions. Normalement, il n'est plus directeur. Bon, il a décidé de saisir le tribunal administratif. N'empêche que ce qui est important là-dedans, c'est la mobilisation. C'est-à-dire qu'on était le 30 août, il y a tout de même plus d'une cinquantaine de personnes dans une ville comme Blois qui se sont mobilisées, donc c'est pas rien.
Alors j'aimerais, justement, il y a une chose dont on ne sait pas ce que ça a donné. Je vous avais parlé à la rentrée que les directeurs d'école recommencer une grève administrative. Et donc, entre autres, refuser, ne devait pas remplir Basel F. Puisque, alors pourquoi ? C'est parce qu'on avait supprimé des personnes qui avaient été justement nommées il y a quelques années, qui avaient été mises en place il y a quelques années, qui assuraient ce secrétariat, justement pour que Basel F puisse se mettre en place. Et il y avait je ne sais plus combien de milliers de postes qui ont été supprimés. Et donc, les principaux syndicats avaient appelé, m'ont appelé, à une grève administrative. Donc, entre autres, dans la grève administrative, il y a ne pas remplir Basel F. Sauf que je n'ai aucune information sur ce qu'est devenu réellement ce mouvement de refus.
Pour la petite histoire, le syndicat majoritaire chez les instituts et profs d'école, c'est les SNUIPP. Et le SNUIPP au niveau local, que ça soit à Bois, certainement à Rodez, là où ça bouge, est avec et accompagne le mouvement. Tandis qu'à Reims, nous n'avons pas de peau. Hein. Nous, le SNUPP, depuis le début, nous a dit « niet, il n'est pas question de mettre en cause ce... »
Oui, ils nous ont expliqué que ce n'était pas si grave. Hein.
Pas si grave,
et
voilà.
Puis que les instituts, ça ne les intéressait pas trop. Donc, ils n'avaient pas envie de mobiliser là-dessus.
Et je crois qu'au niveau national, le SNUPP n'a jamais réellement pris position contre Basel F sur la base du comité national de refus de Basel F. Je crois que si ça se passe localement... La résistance, c'est des gens au niveau local, mais pas du tout au niveau national.
Il y a quand même une coordination nationale, mais on va faire une émission avec les gens de la coordination nationale bientôt, c'est en préparation. Voilà, donc on en reviendra là-dessus, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler pendant une émission complète, puisqu'on sera en lien avec des gens justement qui sont impliqués là-dessus depuis des années.
Et pendant que j'y pense, il nous reste quelques instants là. Si vous êtes vraiment motivé par Basel F, que vous êtes tout simplement prof d'école ou parent d'élève, vous pouvez sur internet taper CNRB, et là il n'y a pas de problème, vous aurez des tas d'informations sur la résistance
donc,
à Basel F.
Donc comité national de résistance à Basel F.
À Basel F, ouais.
Et j'ai oublié ce que je voulais dire à ce sujet-là. Ça me revient pas. Si. Les parents ne sont pas obligés de remplir la fiche, bien sûr, qu'on leur soumet en début d'année,
oui.
De façon tout à fait
anodine.
Oui, anodine, sans rien dire. Enfin voilà, vous n'êtes pas forcément prévenu que ça va rentrer dans Basel F. Ouais. Ça rentre dans Basel F. Et si vous trouvez qu'il y a des questions indiscrètes, évidemment, vous n'êtes pas obligé de les renseigner.
Les exploités, les dominés, les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les maltraitances. Seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce. C'est une logique de la rationalité du capital. La globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout. On ne la considère pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire. Il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Moi, je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions. Et de vous retirer sur le côté, gentiment.
Monsieur,
comme ça, il n'y aura pas de violence,
en tout cas
pas de
inconvénient, j'attends les ordres.
Allez, c'est Adrien Grégoire, chaque semaine, sur l'écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et Radio Primitive sur Reims. Adrien Grégoire, une parole anarchiste communiste.